Germann et Martin Guibernier.
Bonjour toutes et à tous et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs, édition du 6 novembre 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Alors, depuis la dernière semaine, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention?
Il y a eu beaucoup d'annonces de résultats financiers de plusieurs entreprises, côté américain, côté canadien. Aux États-Unis, c'était vraiment en deux temps. Là, il y a certaines entreprises qui ont très, très bien fait. Les actions ont monté, entre autres, par exemple, Amazon, Google, ça a bien fait. Microsoft, Meta, entre autres, là, qui a perdu comme 300 milliards dans une journée. Donc, ce qui fait que cette semaine, les marchés sont négatifs. Donc, le Nasdaq est en baisse de 0,9%. Le S&P 500, 0,7. Au Canada, c'est un petit peu mieux, moins 0,5. On a eu des résultats financiers de plusieurs entreprises là, que nos clients détiennent, entre autres. Stella John a super bien fait. Savaria, c'était très bon aussi. CN, c'était comme mieux que craint. Là. C'était pas très bon, là, mais on s'attendait tellement à ce que ce soit mauvais que finalement, c'est, okay, c'est pas pire. Puis, et l'action a réagi positivement là-dessus. Econ Group aussi, là, qui a fait des nouveaux sommets, des très bons résultats financiers. Donc, en général, le ton, il est bon. Ce que je retiens beaucoup, par contre, je suis allé un petit peu mesurer certaines comparaisons à différents indices. Au Canada, l'indice valeur en hausse de 26%, l'indice croissance en hausse de 15%. Donc, tu sais, au Canada, c'est comme les banques puis les titres un petit peu plus plates là, qui performent bien. Côté américain, ben c'est comme l'inverse. Là. MSCI World, croissance plus 19, valeur plus 14. Du côté américain, il est encore plus intéressant. S&P 500, là, on a dit en hausse de 16,6 depuis le début de l'année. Et donc, on sait qu'il y a comme 30% de l'indice, c'est les 7 magnifiques, là, les Amazon, Google, les Microsoft de ce monde. Par contre, si on devait prendre les 500 compagnies, les équipondérer, toute la gang, 8% seulement de croissance. Donc, c'est vraiment, si on n'est pas 30% en technologie dans notre compte, on n'a pas le rendement du S&P 500. Là. Si on est juste un peu plus prudent, un peu plus modéré dans notre répartition d'actifs, on parle à moitié du rendement de l'indice. Moi, je lève un petit drapeau de risque. Là, quand on est surpondéré dans quelque chose, même si c'est des excellentes entreprises rentables qu'on adore, puis l'IA et tout ce qu'on veut, une forte concentration dans peu d'entreprises, c'est plus un signe de risque. Ça fait un petit peu le tour, là, année à jour. Donc, on est à plus 25 sur le TSX, plus 16 sur le S&P 500. Plus 23 sur le Nasdaq. On a eu des taux d'intérêt là, en légère hausse. On va parler un petit peu de budget, on va parler de déficit puis tout ça. En travers tout ça, ben, qu'est-ce que ça a eu d'impact sur le dollar canadien? On sait quand il y a des nouvelles économiques comme ça, le dollar canadien peut réagir. On était à 71,3 la semaine passée. On est à 70,9 cette semaine. Bon, c'est un gros 0,3. Là, c'est pas ça qui va faire qu'on va changer nos plans de voyage dans les prochaines semaines.
Bien, merci beaucoup, Martin. Puis on le répète à chaque semaine, hein, il faut être diversifié dans son portefeuille.
C'est la clé.
Donc, je pense que c'est le seul message qui revient presque à chaque semaine. Donc, aujourd'hui, comme tu as mentionné, Martin, on vous propose un épisode spécial à la suite du dépôt du budget fédéral 2025, le 4 novembre. Pour qu'on comprenne ce budget, les impacts sur nos clients, on a le plaisir d'accueillir de nouveau notre collègue Caroline Marion, qui, et je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais elle a beaucoup de titres, notaire, fiscaliste, planificateur financier, conseillère principale en stratégie d'affaires, qui va nous aider à décortiquer les mesures fiscales proposées. Donc, merci beaucoup, Caroline.
Bien, ça me fait plaisir. Bonjour à vous deux.
Donc, je pense
et à
que...
tous.
Oui, et je pense qu'on t'a parlé beaucoup de budget probablement dans les derniers jours. Donc, peut-être avant de rentrer dans les détails des mesures fiscales, est-ce que tu peux nous rappeler l'historique de ce budget? Car ce n'est pas vraiment le temps de l'année qu'on annonce un budget dans le gouvernement fédéral.
Tu as tout à fait raison, Sarah. En fait, dans les dernières années, on nous avait habitués plutôt à un budget au printemps, donc mars-avril. Mais depuis quelques années, on nous avait aussi ajouté des mises à jour économiques à l'automne. Donc, les mises à jour économiques, parfois, pour nous, les fiscalistes, contenaient plus de mesures fiscales que le budget comme tel. Donc, De notre côté, on était aux aguets autant au printemps qu'à l'automne en tant que fiscaliste. Mais ici, pour fin de rappel, il y avait quand même eu des choses qui avaient été présentées par le gouvernement Trudeau. On se souviendra qu'il y a eu la démission fracassante de Chrystia Freeland juste avant le dépôt de ce budget-là, ce qui a entraîné la chute de Justin Trudeau qui a démissionné, dans le fond, au début d'année 2025. Il y a eu la course à la chefferie, il y a eu l'élection. Les libéraux sont reportés au pouvoir, mais pas majoritaires. Donc, le budget, il est aussi tributaire des autres partis à la Chambre des communes. Et on a donc annoncé au niveau du gouvernement qu'on allait reporter le budget à l'automne, puis tard à l'automne. Fait que finalement, on a eu ce dépôt de budget-là le 4 novembre. Cela dit, on disait d'entrée de jeu que c'est pas habituel, mais en même temps, ils ont passé le message à la communauté que probablement que ça risque d'être comme ça avec ce gouvernement-là. Donc, on devrait pas s'attendre à avoir un budget 2026 au printemps, mais bien à l'automne 2026. Fait qu'on devra faire avec les mesures qu'on a eues là, puis peut-être changer un peu nos habitudes. Peut-être qu'on aura des mises à jour économiques au printemps. Ça va être intéressant de voir le changement, mais c'est pas pour les fiscalistes, c'est pas un gros brouhaha parce qu'on était habitué d'avoir un peu deux annonces dans une année.
Mais merci beaucoup pour l'historique. Ça nous met au courant, ça fait la mise en place. Donc, quelles sont les mesures fiscales annoncées qui auront un impact direct ou indirect sur nos clients?
En fait, ce budget-là, il est plutôt étrange. Il y a beaucoup de petites mesures qui viennent corriger des incohérences, corriger des loopholes, des fois qu'on appelle, ou des trous où les fiscalistes aiment bien aller se montrer. Mais on est loin d'avoir des mesures universelles. Donc, je vais vous donner quelques exemples de mesures qui ont changé, mais on se comprend, là, c'est très précis, c'est très particulier, ça impacte un certain nombre de personnes, mais pas la majorité. Entre autres choses, et ça, c'est une bonne nouvelle, mais c'est très technique, on va venir uniformiser les placements qui sont autorisés dans les régimes enregistrés. Il y avait certaines incohérences, par exemple, il y avait des placements qui étaient autorisés dans le REER, mais qui ne l'étaient pas dans un RPDB ou qui ne l'étaient pas dans un régime enregistré d'épargne-études. Donc, là, on vient uniformiser ça. Tous les régimes enregistrés auront droit d'avoir le même type de placement. On vient aussi faciliter la procédure pour qualifier des fonds communs de placement comme placement enregistré. Avant, là, il y avait des étapes assez complexes à rencontrer. Maintenant, on se colle sur les règlements de valeur mobilière. Donc, c'est-tu un règlement 31-103 ou c'est un règlement quelque chose comme ça? Mais c'est beaucoup plus facile à identifier ce qui va passer, ce qui va se qualifier. Donc, c'est des bonnes nouvelles au niveau purement technique. Une autre chose qui vient de corriger, il était possible avant de prendre en compte la même dépense à la fois pour le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire que pour le crédit d'impôt pour frais médicaux. Donc, supposons que je faisais une rénovation à la maison pour ajouter une rampe d'accès, mettons, en avant de la maison pour faciliter mon entrée en fauteuil roulant. Ce genre de dépense-là, il était évidemment admissible au crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire. Ce crédit d'impôt-là, dans le fond, vient nous donner un 14%-ish d'un montant de 20 000 $ maximum, mais je pouvais aussi prendre la même dépense puis aller le placer dans mes frais médicaux pour booster mon crédit pour frais médicaux. Donc ça, c'est maintenant interdit, c'est un ou l'autre.
Ce qui fait du sens, là, d'une certaine façon. Là, moi, je me mets d'un point de vue du contribuable ou du gouvernement, c'est comme, ben là, tu ne peux pas déduire deux fois. Là. On ne taxe pas deux fois sur le même revenu, tu ne peux pas déduire deux fois la même dépense.
Exactement, mais ça reste que c'est ça, c'est ce genre de mesures-là qu'on est venu nous mettre dans les dents, dans le budget. Fait que s'il y en a des fois qui vont voir les mesures fiscales puis qui se disent, mais semble, je lis rien là-dedans qui me touche, là, c'est parce que c'est ça, c'est très, très
c'est
technique.
C'est subtil, là, ouais.
De la même façon, on va venir resserrer des règles anti-évitement. Ça pourrait toucher une partie de votre clientèle en ce sens que on vient empêcher des stratégies de report d'impôts, je vais dire éternelles, parce que c'est presque comme ça qu'ils l'ont écrit dans le budget. On sait que dans des fiducies, il y a à tous les 21 ans une règle de disposition réputée. Donc, on fait semblant que la fiducie meurt, on dispose des biens, on réalise les gains, les pertes qui étaient accumulées sur les biens de la fiducie. On a de l'impôt à payer, mais comme au décès, c'est une disposition réputée, on n'a pas vendu les choses. Fait que quand une fiducie détient, par exemple, des actions d'une société privée, bien, cette ponction-là, elle vient faire mal parce qu'on n'a pas vendu l'entreprise, on n'a pas. Fait que des fois, on manque de liquidité pour payer ces impôts-là. Fait que les gens essayaient de mettre en place des stratégies pour reporter le 21 ans en distribuant les actions à des bénéficiaires puis en les retransférant dans une autre fiducie pour repartir le compteur et ainsi de suite. Donc, ça va être bloqué. Et de la même façon, dans les compagnies, il y avait une stratégie qui permettait de se verser des dividendes intercorporatifs entre les sociétés, mais en reportant l'imposition. Déjà, un dividende intercorporatif, actuellement, c'est pas imposable, hein, pour l'autre compagnie. Pourquoi? Parce que dans le fond, elle va le payer l'impôt uniquement quand l'actionnaire majoritaire va se verser un dividende. Donc, c'est un jeu de crédit, donc d'IMRTD, là. Je m'excuse, pour en même remboursable au titre de dividende et tout. Donc, on fait ça entre les compagnies. Puis là, il y avait une stratégie qui consistait à faire ce genre de transfert-là, mais en mettant toujours des fins d'année fiscales différentes entre les entités. Fait que je pouvais avoir comme trois entités, une qui avait un 30 avril comme fin d'exercice financier, une le 31 mai, puis une le 30 juin. Puis de la façon dont je passais mes dividendes entre les trois sociétés, je reportais tout le temps l'impôt. Il y avait toujours personne qui payait de l'impôt pendant un temps assez important. C'est terminé ça aussi. Fait que c'est deux grandes mesures qui peuvent peut-être toucher des clients qui servaient de ces stratégies-là pour reporter de l'impôt. Puis, je termine avec ma préférée dans les mesures parce qu'elle montre toute la, je dirais, toute la dichotomie de notre système fiscal. On a créé un crédit compensatoire pour corriger l'impact de la baisse des taux. Donc, vous vous souvenez qu'on avait annoncé, puis ça, c'est peut-être une des seules mesures que tout le monde connaît ou que tout le monde a entendu, mais elle n'était pas nouvelle, elle avait été annoncée par le gouvernement Carney bien avant, c'est la baisse du taux d'imposition sur le premier palier de revenus au fédéral. Donc, on est passé, dans le fond, de 15 à 14 %, mais comme on a fait ça le 1er juillet, ça veut dire que pour 2025, c'est 14,5 % de taux sur la première tranche de revenus. Mais le fait de changer le taux du premier palier, ça change aussi le taux des crédits d'impôt. Donc, tous les crédits d'impôt étaient accordés à 14 % à 15 %, maintenant, ils sont accordés à 14,5 %. L'effet pervers de ça, c'est que des fois, ça fait perdre de l'argent à des gens. Donc, le crédit d'impôt, en baissant l'impôt du premier taux d'imposition, ceux qui sont à plus que le premier palier, le fait qu'on ait baissé le taux du premier palier, mais qu'on baisse aussi le taux du crédit, ça pénalise ceux-là. Okay. Et donc, ça pénalise ceux qui sont au deuxième, troisième palier d'imposition. Fait que pour corriger cette espèce de bonbon empoisonné-là, parce que, tu sais, je vous dis qu'il y a des baisses d'impôts, mais en même temps, je vous baisse vos crédits. Fait que finalement, si vous payez plus d'impôts qu'avant, ils sont venus mettre un crédit compensatoire qui va durer pour quelques années, le temps qu'on s'habitue à la nouvelle règle des crédits, mais aussi le temps que les montants qui servent à calculer les crédits aient augmenté suffisamment avec l'inflation pour qu'il n'y ait plus d'impact. Mais c'est quand même assez particulier qu'on soit obligé de faire une mesure correctrice comme ça.
Puis en tant que gestionnaire de patrimoine de notre côté, est-ce que on peut se préparer à ces changements? Y a-t-il quelque chose que nos clients doivent faire suite à ce budget-là?
À mon avis, vraiment pas. La seule chose qu'ils peuvent faire, par contre, c'est vraiment s'ils se sentent interpellés, entre autres par les mesures que j'ai dit qui changeaient puis qui allaient empêcher certains reports d'impôts, ben qu'ils n'hésitent pas à venir vous consulter. Vous avez un entourage, vous pouvez référer, dans le fond, avec votre entourage à des conseils fiscaux. Ça peut peut-être être une idée là qui vous contacte d'abord puis qui viennent voir auprès de nos experts qu'est-ce qui se passe pour leur situation personnelle.
Bien, merci, Caroline. Je veux juste mentionner un truc, là, on annonce un déficit de 78 milliards, à peu près 2,5 % du produit intérieur brut. C'est astronomique, 78 milliards. Aux États-Unis, on est à un déficit de 6,5 % du produit intérieur brut. Fait que, tu sais, des fois, quand on se compare, on se console. Là, ça a l'air d'aller mal au Canada. En réalité, je pense que les Américains nous envieraient beaucoup notre déficit qui est somme toute beaucoup moins élevé
Puis moi,
que ce qu'on est.
j'avais l'impression avec ce budget-là, c'était plus l'effort de soutenir l'économie canadienne contre les mesures tarifaires des Américains.
Ouais.
Puis c'est peut-être ça qu'on avait besoin de plus maintenant. Fait que merci beaucoup, Caroline. Il n'y avait pas énormément de choses pour les particuliers, mais on peut voir ça comme une bonne chose parce que ce n'est pas des mauvais impacts pour les particuliers. Non plus. Donc, à nos clients et partenaires, si vous avez des questions sur ce sujet ou sur vos objectifs financiers, contactez-nous. Mathieu, Michel, Martin et moi sommes là pour vous accompagner. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à l'écoute des investisseurs.